Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal de Nu Info. Au menu de ce journal, plus de 90% des migrants africains prêts à refaire le voyage vers l'Europe. L'impunité dont bénéficient les auteurs de crimes contre les défenseurs des droits de l'homme persiste. Dans l'est de la RDC, les pays de la région réunis pour discuter de la riposte à Ebola. Et en dossier, nous nous intéresserons au séminaire du Conseil des droits de l'homme à Dakar, au Sénégal. Plus de 90% des migrants africains qui se rendent dans des pays européens en empruntant des routes irrégulières le feraient de nouveau, malgré le danger souvent mortel qui les menace. C'est ce que révèle une étude publiée lundi par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Trouver un emploi n'est pas la seule motivation pour quitter l'Afrique en direction de l'Europe. Et tous les migrants irréguliers ne sont pas pauvres en Afrique et n'ont pas un niveau d'éducation plus bas. C'est ce que constate l'étude du PNUD, qui est basée sur des entretiens avec près de 2000 migrants de 39 pays africains dans 13 pays européens. Environ 58% d'entre eux avaient un emploi ou étaient à l'école au moment de leur départ. La majorité d'entre eux travaillaient, gagnant un salaire correct. Mais environ la moitié de ceux qui travaillaient ont déclaré qu'ils ne gagnaient pas assez. Pour les deux tiers des personnes interrogées, ce qu'elles gagnaient ou les perspectives de salaire dans leur pays d'origine ne les ont pas empêchées de partir. Le chef du PNUD, Achim Steiner, note que les migrations sont une répercussion des progrès du développement en Afrique, même si ces progrès sont inégaux et pas assez rapides pour répondre aux aspirations des populations. Ce que l'on pourrait appeler l'absence de choix ressort de cette étude comme un facteur déterminant de départ vers l'Europe pour ces jeunes Africains. Une fois en Europe, beaucoup de ces migrants restent souvent en raison de leur honte de ne pas réussir ce qu'ils considèrent comme leur mission d'envoyer des fonds suffisants à leur famille restée en Afrique. Environ 53% ont en effet reçu un soutien financier de la part de leur famille et de leurs amis et une fois en Europe, environ 78% envoient de l'argent.
L'impunité dont bénéficient ceux qui portent atteinte aux droits fondamentaux des défenseurs des droits de l'homme persiste. C'est le constat relevé par Michel Forst, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. L'expert des droits de l'homme explique le principal message qu'il a relayé dans le rapport qu'il a présenté la semaine dernière à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Le principal message que j'entends de la part des organisations de la société civile et des défenseurs, c'est que malheureusement, quand ils sont l'objet d'attaques, de menaces, ou parfois pires, et qu'ils vont à la police ou qu'ils vont devant la justice, ils sont soit pas entendus, soit rejetés, soit leur dossier est enterré. Et donc on a le sentiment qu'à l'heure actuelle, l'impunité prévaut, y compris pour les crimes les plus graves. Alors évidemment, on a en tête des noms un peu fameux comme Khashoggi en Turquie, le journaliste assassiné, ou des noms comme Marielle Franco au Brésil, bien connu, ou la journaliste à Malte qui a été également assassinée, pour lesquels on n'a pas de résultat, mais ils sont des milliers, des dizaines de milliers dans le monde à attendre la justice. Et ce rapport a été largement inspiré par leur voix, avec l'idée que mon mandat, qui est un mandat de coopération avec les États, pourrait proposer des solutions et des pistes novatrices. Et c'est la raison pour laquelle dans ce rapport, on trouvera non seulement un état de la situation dans le monde, mais également un grand nombre de recommandations, y compris un ensemble de 6 principes qui sont là pour guider un travail futur de recherche sur la question de la lutte contre l'impunité.
La République démocratique du Congo et ses 9 pays voisins se sont réunis ce lundi à Goma pour discuter de la coopération transfrontalière face au virus Ebola, qui sévit dans l'est de la RDC. Une réunion organisée à l'initiative du ministère de la Santé de la RDC et à laquelle a participé l'Organisation mondiale de la Santé. Notre confrère de Radio Okapi, Bernardin Nyangi, nous en dit plus sur cette rencontre.
Après près de 14 mois, l'épidémie virus Ebola déclarée le 1er août 2018 en Nord-Kivu est actuellement en phase d'être maîtrisée, a déclaré le vice-ministre congolais de la Santé, qui a ouvert officiellement cette rencontre régionale. Albert Mpeti-Biombo indique cependant que la RDC a plus que besoin de l'implication de ses voisins pour faire face à ce genre de menaces sanitaires.
C'est ici une opportunité de formaliser le cadre de coordination et de collaboration, mais aussi d'adopter les feuilles de route entre la République démocratique du Congo et les différents pays voisins.
Et à la directrice régionale de l'OMS Afrique de dire attendre de cette rencontre le renforcement des relations entre la RDC et ses voisins, Madame Moeti Machidiso.
Les pays partageant les frontières devraient renforcer leurs accords bilatéraux et multilatéraux pour prévenir et contrôler l'expansion internationale des maladies. Tel est l'objectif de cette rencontre.
Signalons que les délégués des ministères de la Santé du Soudan du Sud, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, de l'Angola, de la RCA, du Congo-Brazzaville et de la Zambie, ainsi que ceux de l'Union africaine et des Nations unies et autres partenaires, participent à ces assises qui seront clôturées ce même lundi.
Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies est ce lundi et mardi à Dakar. Dans la capitale du Sénégal, les 47 membres du Conseil participent à un séminaire consacré au changement climatique, aux migrations de masse et aux droits de l'homme à l'ère du numérique. Au micro d'Alpha Diallo, le président du Conseil, Coly Seck, explique pourquoi un tel séminaire est utile pour le travail de son organe.
Nous avons estimé que le Conseil fait un excellent travail ici à Genève et le Conseil se prononce sur toutes les questions qui peuvent intéresser en tout cas nos semblables partout dans le monde en vue de promouvoir et de protéger leurs droits fondamentaux. Mais le Conseil n'est pas bien connu, ça c'est un premier point. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des sorties cette année à Genève, à l'Université de Genève avec le club diplomatique. Je suis parti dans un lycée à Ferney-Voltaire pour discuter avec des jeunes, pour leur faire comprendre le travail important que nous faisons et la façon dont ils peuvent s'impliquer personnellement à travers le plaidoyer. Et donc le Conseil doit être plus visible. Deuxième élément, en droite ligne de ce que je disais tout à l'heure, on ne libère pas parfois des énergies au sein du Conseil. Et donc ces retraites informelles permettent aux délégations de discuter de manière tout à fait franche de certaines questions, de donner leur point de vue, d'écliner des voies et moyens, en tout cas de renforcer ce que fait le Conseil actuellement sur certaines questions délicates telles que l'environnement et les changements climatiques, telles que les migrations de masse, tels que les droits de l'homme à l'ère du numérique et également tels que la responsabilité sociétale des entreprises et les droits de l'homme. Des questions fondamentales qui sont certes prises en charge par le Conseil, mais qui mériteraient un regard plus pressant, un regard en tout cas plus proactif pour un peu aider nos pays, particulièrement africains. Et donc Dakar nous permettra en tout cas d'engager une évaluation sur ce que le Conseil a déjà fait sur ces questions-là. Parce que si vous vous rappelez, c'est grâce à l'action du Conseil que des références en matière de l'homme existent, par exemple dans l'accord de Paris sur les changements climatiques. Et donc le Conseil doit servir de précurseur, en tout cas à l'échelle internationale, sur ces questions extrêmement importantes.
Mais ces questions que vous venez de soulever, est-ce des enjeux du présent ou des enjeux du futur pour le Conseil des droits de l'homme?
Donc, c'est des enjeux du présent et du futur. Si vous regardez les statistiques, toutes les études qui ont été faites, les changements climatiques vont dominer l'actualité du monde ces 50 prochaines années et risquent en tout cas de réduire à néant les efforts qui ont été faits ces 50 dernières années pour promouvoir un développement durable à l'échelle mondiale. Donc c'est une question de l'heure, mais également une question qu'il faut anticiper, mais qui polarise en tout cas les États membres. Il y a beaucoup de divergences et il conviendrait de voir dans un cadre un peu plus détendu, un peu plus serein, comment on peut les aborder pour que toute la communauté internationale puisse avoir des engagements respectés par les uns et les autres.
Est-ce que ces questions des changements climatiques, des migrations de masse et des nouvelles technologies sont des priorités de Dakar que Dakar entend mettre en avant?
C'est des priorités de Dakar parce que ces questions ont été choisies par le Sénégal. L'année dernière, si vous vous rappelez, la retraite qui s'est tenue en Slovénie s'était focalisée sur l'efficacité et l'efficience du Conseil des droits de l'homme. Quand nous avons sorti la note conceptuelle de cette retraite, tous les États, en tout cas, ont reconnu que c'était des questions d'actualité, que le Conseil avait entamé certes un travail sur ces questions, mais qu'il était nécessaire de continuer à approfondir la réflexion, notamment dans le cadre d'une séance informelle, une réflexion prospective qui pourrait, en tout cas, permettre au Conseil de prendre en charge toutes ces questions de la manière la plus pertinente possible.
Dernière question, vous êtes le premier ambassadeur sénégalais à être président du Conseil des droits de l'homme. Qu'aimeriez-vous que la Genève internationale et que tous ces militants des droits de l'homme retiennent de la présidence sénégalaise et quels doivent être les chantiers du futur pour vous?
Ce que nous avons voulu insuffler au Conseil, c'est un esprit de respect mutuel. On ne peut pas faire des droits de l'homme si nous ne respectons pas, si nous ne privilégions pas l'écoute mutuelle, le respect de l'autre, le respect des différences. Donc, parce que toutes ces questions qui sont très difficiles ne peuvent être réglées que si nous décidons de nous écouter mutuellement. Nous devons nous respecter, savoir qu'il peut y avoir des divergences, montrer que, en tant que pays africain, pays respectueux des droits de l'homme, dans un continent qui fait de grands efforts dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme, il était possible de contribuer positivement à cette œuvre-là universelle consistant à renforcer chaque jour davantage la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais c'est un idéal. Il n'y a pas de pays maître en matière de droits de l'homme et d'un autre côté des élèves qui sont plus ou moins bons. Mais nous espérons que les présidents futurs vont continuer à privilégier ce dialogue-là.
Fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.